Au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi est sous couvre-feu depuis samedi à cause de l'insécurité grandissante et l'incursion de la milice de Kamuina Nsapu dans le territoire de Kabeya-Kamwanga. Cette mesure a été communiquée à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. Ces miliciens du chef Kamuina Nsapu viennent du territoire de Dibaya dans la province du Kasaï central après des affrontements qui les ont opposés au FRDC il y a quelques semaines à Kananga. Quelle lecture faire de l'expansion de cette milice? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Bonsoir.
Bonsoir, M. Alain. Bonsoir aux auditeurs de la radio.
Merci, Monsieur le gouverneur. Vous êtes gouverneur de la province du Kasaï oriental. Joseph Boukar Kasonga Chilundé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des notables du Kasaï central. Professeur Boniface Moussambi Kabissa, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes criminologue. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi est sous couvre-feu depuis le samedi dernier. Cette mesure a été communiquée à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité. La montée de l'insécurité dans la ville de Mbujimayi et l'incursion de la milice de Kamuina Nsapu dans le territoire de Kabeya-Kamwanga sont des faits notés comme motif. Le couvre-feu sera maintenu jusqu'à ce que le Conseil de sécurité en décide autrement. Chris Mokrand pour les détails.
À travers un compte-rendu lu dans les médias locaux de l'audiovisuel, le ministre provincial près le gouverneur de province affirmait que le couvre-feu, dont le début était initialement annoncé pour le lundi 17 octobre, des 23h à 5h du matin, commence déjà ce samedi, et l'heure de début a été avancée, c'est plutôt 22h et non 23h. Pendant ce temps, seules les forces de l'ordre seront sur les artères, des barrières seront érigées afin de vérifier l'identité de quiconque se retrouvait en circulation. En cas d'interpellation, l'on conseille d'obtempérer et de laisser les agents faire leur travail. Suivant les circonstances et la nécessité, des bouclages de quartiers seront effectués et des perquisitions autorisées dans certains domiciles. Aux éléments de force de l'ordre affectés à ce couvre-feu, des instructions auraient été données de n'extorquer les biens de la population. Signalons que ces mesures tombent au lendemain de l'incursion de la milice associée à Kamuina Nsapu dans le chef-lieu du territoire de Kabeya-Kamwanga à Kienankuna. Et la nuit de vendredi à samedi, les habitants de Mbujimayi n'ont pu fermer l'œil à cause des coups de feu qui auraient tenté presque toute la nuit et cela dans la quasi-totalité de quartiers de la ville, suscitant ainsi de la psychose dans le chef des habitants. Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Kapi.
Merci Chris Mukand. Qu'en est-il réellement de la genèse de cette milice de Kamuina Nsapu? Tentative de réponse avec vous, Berry Franklin Luchaka.
Jean-Pierre Pandi Nsapu, c'est le nom du feu chef du groupement Kamuina Nsapu. Ce groupement se trouve dans le secteur de Dibataï, en territoire de Dibaya, dans la province du Kasaï central. Le soulèvement de sa population date du 3 avril 2016, à la base, la perquisition de son domicile. Perquisition faite par des éléments de service de sécurité envoyés sur place par le Conseil de sécurité provincial, au motif que cette autorité traditionnelle détiendrait des armes. Mais à la fin de l'opération qui s'est faite en l'absence du chef, plusieurs sources affirment qu'aucune arme n'a été trouvée. Ces sources ajoutent même que sa femme aurait connu des sévices sexuels. Cette situation a davantage fâché le chef coutumier. À cela s'ajoute le fait que depuis son accession au pouvoir, l'autorité provinciale, qui ne lui a pas remis les actes de reconnaissance traditionnelle, ne l'avait pas intronisé malgré toutes les démarches. Le mouvement prendra l'ascension début août lorsqu'il se décide d'affronter la police. Sur place, divers bureaux et édifices de l'État seront incendiés. Des affrontements feront une dizaine de morts de part et d'autre et la situation sera maîtrisée par des renforts venus de Kananga. Le 22 septembre 2016, ce mouvement s'étendra à Kananga avec ce que d'aucuns appellent la tentative de prise de contrôle de l'aéroport, mais qui en vérité était la chasse aux policiers et militaires gardant cet aéroport. La psychose créée par cette milice se ressent même dans les localités frontalières dans la province de Kasaï, Kamako et Kamonia. Une partie des éléments de cette milice s'est signalée depuis la semaine passée dans le Kasaï oriental vers Mbujimayi via les territoires de Kabeya-Kamwanga.
Merci Berry Franklin Luchaka. Alphonse Ngoïka Sangi, vous êtes gouverneur de la province du Kassai Oriental. Monsieur le gouverneur, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Mbujimayi aujourd'hui, Mbujimayi et ses environs?
Bien, la situation sécuritaire dans la ville de Mbujimayi est relativement calme. On avait connu des secousses liées à l'insécurité, des bandits en main armée, et des visites domiciliaires. Bon, on a pris des mesures qui portent des fruits, à la suite desquelles on a arrêté des bandits en main armée, on a arrêté, parmi lesquels il y a aussi des policiers. Pour ce qui concerne l'ensemble du territoire, des territoires de la province du Kassai Oriental, on avait connu la semaine passée, entre du jeudi, vendredi, samedi, des secousses dans les territoires de Kabeya-Kamonga, à la suite de l'attaque par les miliciens dits de Kamwena-Sapu, du territoire de Kabeya-Kamonga, principalement dans la cité de Kenankuna, où ces miliciens avaient attaqué les forces de l'ordre, s'étaient attaqués aux forces de l'ordre. Ils avaient incendié le bureau de la CENI, du territoire, de la cité et le parquet. Voilà la situation qu'on avait connue, mais maintenant, au moment où je vous parle, la situation est redevenue calme et sous contrôle des forces de l'ordre et de l'autorité compétente.
Alors, monsieur le gouverneur, comment vous expliquez le fait que cette milice qui sévissait dans le Kassai central semble s'exporter dans votre province?
Écoutez, nous sommes le même peuple, on parle la même langue, les effets de proximité, etc. Donc il y a un effet de contagion. Comme vous le savez, il y a pas que le conflit coutumier qui est à l'origine du comportement de ces chefs. Il y avait aussi des visées politiques. Et là, c'est par rapport aux miliciens arrêtés que nous venons de découvrir que leur démarche était plutôt politique pour des cas qui concernent des miliciens arrêtés ici chez nous. Et donc, voilà, les effets de proximité. On est plus proche du territoire de Kabeya-Kamonga et plus proche des territoires de la province du Kassai central. Donc les populations se côtoient et c'est le même peuple.
Alors, monsieur le gouverneur, vous venez d'évoquer des revendications politiques. Je signale en passant que vous êtes l'une des rares autorités à avoir presque clairement évoqué une revendication comme celle-là. Quand vous parlez des visées politiques révélées par les miliciens capturés dans les détails, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Ça voudrait dire que la démarche des miliciens était de renverser le pouvoir légalement établi. Et ils se sont soulevés. Le fait qu'ils s'attaquent aux institutions, au patrimoine de l'État, au territoire, au parquet, justifie ce que j'ai dit. Et ils s'attaquent aux forces de l'ordre. C'était pour prendre l'emprise du territoire. Et ils avaient des visées d'arriver en province pour renverser le gouverneur et poursuivre leur démarche. Et les miliciens arrêtés nous disent qu'ils ont cité les dates. La date du 19 qu'on entend citer est sortie de leur bouche. Et le mois de décembre. Donc ils en ont parlé. Je ne dis pas des choses de moi-même, mais j'ai reçu ça des miliciens qu'on a arrêtés.
Alors, d'après ces révélations, monsieur le gouverneur, s'il faudrait aller en profondeur, bien sûr, sans révéler certains secrets, est-ce qu'ils avaient l'intention, par exemple, d'arriver jusqu'à Kinshasa?
Effectivement, ils l'ont dit. Donc, ils sont sous audition. Ils sont à la disposition de la justice. Je ne voudrais pas vraiment dévoiler le contenu des auditions parce que, comme vous le savez, c'est secret. Donc, ce sont les magistrats qui vont s'imprégner de tous les dossiers. Mais je vous ai flashé ce que j'ai écouté moi-même aujourd'hui. Donc les 4 miliciens arrêtés nous ont dévoilé ça.
Alors, à la dernière attaque, la semaine passée, et le bilan faisait état de 14 morts, dont 4 capturés parmi les miliciens. Est-ce que ce bilan a évolué?
Mais qui a donné ce bilan-là? Parce que nous, à notre niveau, nous avions un bilan de 7 morts du côté des miliciens, de nos forces de sécurité. Aujourd'hui, le bilan s'est alourdi au niveau de 12 miliciens et 4 de forces de l'ordre.
Alors, tout au début de cette milice, parmi les revendications, certaines autorités citaient notamment le fait qu'ils réclamaient qu'on leur rende la dépouille du défunt chef Kamuina Nsapu. Maintenant, il s'agit des revendications politiques jusqu'à renverser le pouvoir légalement établi. Monsieur le gouverneur, ces miliciens seraient-ils instrumentalisés d'après vous?
Effectivement, il y a l'instrumentalisation de ces miliciens.
Par qui?
Cela est passé par les chefs coutumiers qui sont cités, dont nous avons les noms, qui sont recherchés d'ailleurs, qui ont préparé une sorte de lavage mystique, comme ils l'ont dit, un baptême mystique, des cris-cris, et qui ont fait croire aux miliciens qu'ils étaient invulnérables, et que les balles ne pouvaient pas les pénétrer et qu'eux pouvaient tuer facilement. C'est ainsi que suffisamment drogués, ils sont venus devant les forces de l'ordre, ils se sont attaqués aux forces de l'ordre et comme je viens de vous le dire, ils en ont tué 4, ce qui prouve qu'ils étaient drogués à suffisance. Et l'instrumentalisation est passée par les chefs coutumiers.
Merci.
Et imaginez-vous, comme je vous l'ai dit, qu'il y a les politiques derrière. Et les noms sont cités.
Merci, monsieur le gouverneur. Je vous donne la parole tout à l'heure. Joseph Boukar Kassonga Chilundé, vous êtes porte-parole des notables du Kasaï central. À votre tour, comment vous expliquez cette expansion de la milice qui quitte le Kasaï central pour le Kasaï oriental? Le gouverneur Ngoï Kassangi parle maintenant des revendications politiques.
Merci, mon cher Irung. Mais ce que je peux dire est que cette expansion se justifie par le fait que le problème lui-même au départ n'a pas été bien négocié. Vous avez suivi notre confrère qui a relaté les faits. Juste le jeune homme Jean-Pierre Nsapu, devenu chef coutumier, il a réclamé l'arrêté de nomination qui ne lui a jamais été donné. Il a dit même qu'il demandait des audiences auprès des autorités compétentes. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il était chez Koutumi. Il n'a jamais été reçu. Et puis, il s'est dit qu'il y a un problème. Alors, comme si cela ne suffisait pas, on va l'accuser qu'il a des armes. Et puis, le Conseil de sécurité provinciale envoie des enquêteurs, il perquisitionne, il ne trouve aucune arme. Et puis, comme peut-être d'habitude, il viole, il détruit ses fétiches. Et le monsieur n'était même pas là, il était en Afrique du Sud. Et quand il revient, il apprend cette affaire, il se rebelle. Il estime que l'État qui doit me protéger, c'est l'État qui me fait ça. Moi, je ne veux plus de l'État. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il mobilise tous les jeunes de tous les villages environnants à qui il donne des portions magiques. Pour leur dire ce que le gouverneur venait de dire.
Qui sont invulnérables.
Invulnérables. Et puis, ces jeunes disent bon. Et lui, le chef, dit, moi, je ne veux rien voir qui symbolise l'État. En d'autres termes, la police, l'armée, la CENI, la territoriale, l'administrateur du territoire, et ainsi de suite. Et il commence le mouvement. Et lorsque le chef voisin, qui essaye de Ntenda, qu'on appelle Ntenda, qui essaye de le faire venir à la raison, il envoie la milice rase tout le village. Et le chef fuit, et puis la milice continue jusqu'à Tchimboulou. Et à Tchimboulou, ce qui est curieux, quand vous prenez cette milice-là, c'est des enfants de 8 à 14 ans. Et ils ont comme arme les bambous. Alors, et quand ils arrivent à Timbulu, tout le monde fuit. Et les militaires, et les civils, et les policiers, et les agents de sécurité, tout le monde.
Des bandades généralisées.
Et ils parviennent quand même à tuer. Ils quittent, ils vont à Bunkonde, ils quittent Bunkonde, ils font un chocolat. Et... Alors ça fait une sorte de psychose d'une manière générale dans la contrée. Je pense qu'à ce niveau-là, la gestion du dossier n'a pas été suffisante.
Alors qui a mal géré ce dossier?
Je dirais que les autorités ont mal géré ce dossier. Lorsqu'on a dit que Kamuina Nsapu a des armes et qu'il devait envoyer une perquisition, à moins que je me trompe, le criminologue pourra nous aider, dans la logique, lorsque vous allez pour perquisitionner, que vous ne trouvez pas le propriétaire des lieux, la moindre des choses, c'est de rentrer. Hein? Ou alors de laisser une équipe là, jusqu'à ce qu'ils viennent. Mais lui, on leur a dit qu'il était en voyage. Ils ont perquisitionné. Ils n'ont pas trouvé des armes pour lesquelles ils sont très perquisitionnés. Mais au lieu de rentrer, ils ont commencé à des exactions qui ont conduit à ce que le chef, quand il est revenu, s'énerve, se révolte. En somme, il s'est révolté. D'abord pour ça, et ensuite parce que depuis 5 ans qu'il est là, il n'a jamais été reconnu comme chef coutumier. Donc c'est ça le vrai problème.
Alors en termes des revendications, Joseph Okakasonga Chilunde, je le disais tout à l'heure, c'est le gouverneur Ngoï Kassanji est pratiquement la première autorité qui semble presque clairement dire quelque chose en ce qui concerne ces revendications. Il y a un moment, c'était la dépouille que les fanatiques du grand chef Kamuina Nsapu réclamaient, et maintenant c'est des revendications politiques. Comment vous analysez cette évolution?
Pour ce que le gouverneur a dit tout à l'heure, franchement, il a raison. Mais là où je me réserve par rapport à ce qu'il a dit, c'est des visées politiques pour renverser le pouvoir. Entre nous, je ne vois pas comment ces jeunes gens-là...
Armés de bambou,
de 8 à 14 ans, et puis drogués, comment ils allaient renverser le pouvoir, avec quels moyens, hein? Bon, on peut dire qu'il y a des... Les politiciens derrière eux, c'est possible, mais ces politiciens-là, ont-ils réfléchi d'envoyer les enfants de 8 à 14 ans, 15 ans même, et ils croient qu'avec ça, ces miliciens allaient prendre tout le pays? Moi, je pense que si tel est le cas, ces politiciens auraient commis une grosse bêtise de leur vie, parce qu'on ne renverse pas un pouvoir par des jeunes de 8 à 14 ans armée de bambou, en tout cas, à moins que ce soit une milice spéciale, une milice fétichiste, même si le fétiche là, moi, je ne crois pas tellement.
Voilà, professeur Boniface Moussambi Kabissa, vous êtes criminologue, professeur. Pour vous, vous avez un peu suivi la genèse de toute cette affaire. Comment vous l'expliquez en tant que scientifique également?
Merci beaucoup. Je n'ai pas de voix aujourd'hui. J'ai pris un produit qui m'a détruit la gorge.
On fera avec.
Bon, alors, je vous remercie pour l'invitation, mais je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que lorsque nous parlons de notre pays, nous avons l'habitude d'être légers. Et moi, je n'aime pas la légèreté. Et c'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Parce que je regarde quelqu'un dans les yeux, et je dis des choses, sans entrer dans la profondeur des choses que j'ignore. Vous devez savoir, monsieur Alain, monsieur le journaliste, et très chers compatriotes, que l'État n'a pas été créé par Dieu. L'État a été créé par l'homme. Tous ces gens qui sont passés à l'université, ils savent que l'homme, c'est par la peur qu'il a créé l'État. Parce qu'il avait la peur de se auto-exterminer. Et donc, c'est contre sa volonté que l'homme a remis à l'État ses droits naturels. Je dis bien contre sa volonté. Alors, dans le monde entier, écoutez-moi bien, on n'aime pas l'État. Vous avez l'impression dans ces pays, quand quelqu'un n'aime pas l'État, vous pensez qu'il sort de l'extraordinaire sorcier. Non, on n'aime pas l'État. Pourquoi? Parce que l'État a pris nos prérogatives naturelles par la force. Même si par après, certains auteurs parlent du contrat social, ce contrat a été imposé. Je ferme cette parenthèse, parce que c'est très important. Alors, en suivant les récits des uns et des autres, ça me donne parfois envie, soit de rire, soit de pleurer. Lorsqu'on dispose les pouvoirs publics, on doit avoir le sang-froid.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, partir de ce que je viens de vous dire, que les gens ont le droit de revendiquer. Et que moi, l'État, j'ai l'obligation de répondre aux revendications. Alors, chez nous ici, chaque fois quand quelqu'un est nommé par le chef de l'État, il a l'impression que le chef de l'État devient Saint-Esprit. Il lui a donné toutes les intelligences coutumières, religieuses. Mais non, papa. Il faut que nous revenions sur terre.
Alors, professeur, parce que nous sommes sur...
Je termine juste.
Je vous en prie, allez-y.
Je termine juste. Pour parler de ce sang-froid, il s'agit, d'après ce qu'on m'a dit, le début, la démarche part de la perquisition. Qui est allé faire cette perquisition? Avait-il été qualifié pour faire la perquisition? Parce que lorsque moi, ancien inspecteur général de la police judiciaire des parquets, je vous parle de la perquisition, il y a des principes. Vous devez savoir à quelle heure, de quelle façon, commencer quand, terminer quand.
En présence de qui?
Quels sont les témoins qui doivent assister à la perquisition? Quelles sont les contradictions sur les procès-verbaux des constats? Tout ça, ça se fait lorsque la personne qui va perquisitionner a été formée et a les pouvoirs comme tel. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. Je finis pour vous dire que quand on a perquisitionné à l'absence de l'auteur de l'infraction, vous devez avoir des témoins autres que vous, l'agent qui perquisitionnait.
Pour certifier les faits.
Pour certifier les faits. Deuxièmement, s'agissant des armes, et comme l'auteur n'était pas là, qu'est-ce qu'on gagnerait en perquisitionnant à son absence? Et si on trouvait les armes, comment on va l'arrêter? On aurait dû investir les lieux et attendre que l'intéressé arrive pour mettre la main dessus.
Et donc, professeur, pour vous, si je vous suis bien jusqu'à ce niveau-là, il y a eu mauvaise gestion du dossier.
Absolument, il y a une légèreté, pas même mauvaise, il y a une légèreté dans la possession du pouvoir. L'homme que vous voyez, les gens que vous voyez, ce sont eux qui ont donné à l'État la force qu'il a. Mais l'État ne peut pas exhiber ça, n'importe quand, n'importe où, en faisant ce que j'appelle les actions extra-petita. Non.
Alors professeur, les gens ont le droit de revendiquer, dites-vous, nous sommes sur terre, nous ne disons pas le contraire, et donc l'État devrait écouter le chef Kamuina Nsapu avant de le tuer.
Mais absolument, absolument, on doit non seulement l'écouter, on doit l'entendre se défendre, et il va produire ses moyens de défense. Attendez, nous avons une autorité dans ce pays ici. Et je peux dire le président de la République. Vous savez combien de choses qu'on dit sur sa tête qui ne sont pas vraies. Et vous n'entendrez jamais ce monsieur qu'il a été lui-même, et pourtant il a les moyens de le faire. Alors moi je pense que chacun des Congolais, chacune des Congolaises qui dispose d'un pouvoir doit avoir du sang-froid. Parce qu'il s'agit de diriger nos propres frères et pas nos ennemis.
Alors, professeur, comment vous expliquez l'expansion de ce mouvement? Le gouverneur Ngoï Kassanje a dit que ce sont des tribus qui partagent des valeurs communes, qui se retrouvent de part et d'autre d'autres provinces.
C'est ce qu'on appelle les démarches additionnelles.
C'est-à-dire?
En criminologie, c'est-à-dire que les gens qui ont les mêmes revendications, ou qui ont les revendications différentes, mais à l'endroit de la même personne, finissent, c'est le chapitre que je parle du bienfait du crime. Hein, parfois les étudiants rigolent et disent, mais comment le crime peut avoir un bienfait? Le bienfait du crime, c'est que il peut réconcilier les gens, les victimes, alors que les victimes au départ étaient des ennemis. N'est-ce pas?
Semble leur donner une cause commune.
Absolument. Ils sont unis dans les sorts, et à ce moment-là, ça peut aller comme le feu de poudre.
Merci, professeur. Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanje, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Job Kamangou, depuis la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, décréter ce couvre-feu suite à l'incursion de cette milice, pareil comme elle avait des faiblesses car gouverner c'est prévoir, dit-on. Cette incursion aurait dû être évitée si les mesures sécuritaires avaient été renforcées, surtout qu'il y avait déjà l'alerte de cette milice dans notre province. Pire encore, ce couvre-feu en pleine nuit laisse présager un manque d'initiative car dans la plupart des cas, cette milice opère en plein jour comme ce fut le cas de l'aéroport de Kananga.
Monsieur le gouverneur, réaction.
Bien, le couvre-feu n'a pas été décrété par rapport à la milice de Kamouna Sapou. Je veux préciser les choses, c'est par rapport à l'insécurité qui sévissait dans la ville de Mbujimayi. L'autorité compétente peut prendre des mesures pour par rapport à l'efficacité de cette mesure. Donc nous voulons éradiquer l'insécurité dans la ville de Mbujimayi. Nous voulons arrêter les bandits, nous voulons récupérer les armes. Et il faut procéder de quelle manière? Nous avons, au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité, élargi aux institutions provinciales, décidé de décréter le couvre-feu. C'est là pour nous permettre de surveiller les mouvements des populations aux heures où les visites domiciliaires s'opéraient. Et en ce moment-là, avec efficacité, selon les informations en notre possession, procéder aux perquisitions avec, bien sûr, les autorisations du procureur général, parce qu'il est membre du comité provincial de sécurité et de l'auditeur supérieur pour ce qui concerne les militaires. Donc, je précise que ces mesures n'ont pas été prises par rapport à la milice. À la milice, on a déployé les forces de l'ordre et qui ont fait avec succès de bonnes opérations, qui nous ont permis de stopper cette avancée des miliciens. Non seulement de stopper, mais d'en arrêter quelques-uns, auprès desquels nous avons eu ces informations que je viens de vous dire.
Alors, monsieur,
et si je peux remonter...
Je vous en prie très rapidement, s'il vous plaît.
Si, par rapport à ce qui a été dit avant, il faut suivre l'affaire. Moi, j'ai suivi la vidéo du fait chef Kamouna Sapou. Il parlait, en ce moment-là, du renversement des institutions. Il s'en prenait au pouvoir, depuis son vivant. Et donc, même pour des leçons que nous venons de suivre là, est-ce que l'autorité provinciale n'avait pas pris soin de saisir la justice avant de procéder à la perquisition? Pour une information hautement sécuritaire, la présence des armes dans une maison, il faut attendre que le propriétaire arrive. Je ne crois pas. Je pense que l'autorité compétente, l'autorité provinciale, avait pris soin. Ça, nous le connaissons. Nous prenons toujours soin, pour ce qui concerne les cas de perquisition, d'en aviser l'autorité compétente, c'est-à-dire le procureur général, qui dépêche un inspecteur ou un agent du parquet général.
Monsieur le gouverneur.
Qui participe à la perquisition.
Monsieur le gouverneur, ne serait-il pas un peu exagéré, permettez-moi l'expression, de votre part, comme a dit Joseph Boukar Kassonga Chilundé, que des jeunes armés de bambou puissent arriver jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir?
Ce n'est pas les jeunes, bon, je ne connais pas, hein, pour ce qui concerne le Kassai central, mais les miliciens que moi j'ai vus aujourd'hui ne sont pas de 8 à 14 ans. j'ai vu quelqu'un d'une quarantaine d'années et l'autre d'une trentaine d'années, munis des armes de guerre et des calibres 12, je l'ai dit, que nous avons récupérés. Plusieurs armes de guerre récupérées à Mukompa, les armes de guerre récupérées à Kenankunda, des calibres 12. Vous croyez que un milicien muni d'un bambou peut tuer quatre policiers, comme nous avons vécu le cas ici? Nous avons perdu quatre policiers. Donc c'est avec des armes de guerre. Et avec des armes de guerre, quelqu'un peut avoir des prétentions d'arriver à Kinshasa. Hein?
Merci. Et,
imaginez-vous ce qui s'est passé dans les deux provinces. Donc la ministre par-ci, par-là, dans des territoires à territoire.
Merci.
En train de détruire les bâtiments de l'État.
Merci, monsieur le gouverneur. Joseph Oukarkasonga Chilunde, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de l'Ituri.
Rachid Irach de Mambasa, en province de l'Ituri. Les stations de cette milice de Kananga en Boudjimaï laissent déjà à croire qu'il y a un arbre qui cache la forêt derrière cette milice. Ils ignorent bien les raisons de l'existence de celle-ci. Aujourd'hui, il est inadmissible que ce qu'on appelle milice, avec une revendication d'un fait traditionnel, arrive à traverser d'une province à une autre. Il est temps de croire que celle-ci a changé d'objectif et que c'est le moment de prendre des mesures adéquates. Car ce sont des petits ruisseaux qui font de grandes rivières, dit-on.
Veuillez nous excuser pour la qualité de cet élément. Je vais devoir répondre pour vous, Joseph Oukarkasonga Chilunde, parce que j'ai eu l'impression que vous ne captez pas bien la réflexion de cet auditeur. Il dit l'extension de cette milice de Kananga jusqu'à Mbujimaï laisse déjà croire qu'il y a un arbre qui cache la forêt derrière cette milice. Nul n'ignore bien les raisons de l'existence de celle-ci. Aujourd'hui, il est inadmissible que celle qu'on appelle milice avec une revendication d'un fait traditionnel arrive à traverser une province à une autre. Il est temps de croire que celle-ci a changé d'objectif et que c'est le moment de prendre des mesures adéquates, car ce sont des petits ruisseaux qui font des grandes rivières, dit-il.
Mais il a pleinement raison. Il a pleinement raison. Et même le gouverneur de province, mon jeune frère Mouéka Sanji, parce que je dis que déjà le fait que leur chef ait été tué et qu'eux continuent, ça pose un problème. Ça nous pose, nous devons nous poser des questions. Comment ils arrivent à continuer et quitter d'un territoire à un autre? Et aujourd'hui, évidemment, lorsque nous sommes chez nous là-bas, quand vous êtes à Kamina-Sapou par rapport à Kabekamona, mais ils ont les mêmes champs, ils se marient, ils se fréquentent, ils boivent le même chichampa, et donc ils sont ensemble. Mais le pousser jusqu'à ce point-là et le continuer tel qu'ils le font aujourd'hui, depuis le 22 septembre jusqu'à aujourd'hui, moi, je me pose aussi des questions, comme tous les autres qui se posent des questions, qu'il y a peut-être une main noire derrière tout ça. Et je suis content qu'au niveau du Kassai Oriental, que l'autorité provinciale soit parvenue à mettre la main sur certains miliciens qui auraient fait toutes ces déclarations. Moi, ça ne fait que me réjouir pour que demain, on puisse éradiquer totalement cette milice, qu'on sache qui sont derrière et au besoin qu'on les sanctionne conformément à la loi. Parce que c'est pour ça que j'ai même mis des réserves. Ces jeunes gens-là, à leur âge, ils ont commencé, même ceux qui sont venus à Kananga. Ce sont des jeunes gens qui n'avaient rien. Mais apparemment, ils ont évolué. Au lieu que ce soit ces jeunes gens, il y a même des adultes avec des armes réelles qu'ils ont eu peut-être lorsque les autres policiers militaires fouillaient, ils ont récupéré les armes, c'est possible. Alors, il faudra maintenant que on démêle tout ça pour que on puisse
voir plus clair.
Voir plus clair et permettre à ce que la population vive en paix.
Alors, dernièrement, vous, les notables du Kassai central, vous avez rencontré le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Sur cette question, visiblement, vous n'avez pas traité les bonnes causes.
En somme, nous l'avons rencontré parce que c'est lui qui a présidé le conseil de sécurité en amenant toutes les têtes couronnées de son secteur à Kananga. Et c'est juste pendant ce temps-là que Kabila Sapo a été tué. Maintenant, lui devait nous expliquer comment il va là-bas, et puis pouf, nous apprenons que Kamuna Nsapu a été tué, alors que les grands bandits, les grands rebelles de ce pays vivent, sont parfois dans des institutions. Il nous a donné les explications qu'il nous a données, on l'a écouté, et puis nous avons dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver des solutions. Et puis, pour lui, la solution, c'est que la démarche faite par le gouverneur d'organiser un barza communautaire avec tous les chefs coutumiers, les notables, pour qu'on puisse parler de ce dossier, savoir qu'est-ce qui ne va pas et comment le faire afin d'arrêter cette progression. Mais tout le monde était surpris de d'apprendre que au-delà de ce fait, le barza n'a pas encore eu lieu, mais ces miliciens progressent. Ils dépassent même les limites de leur territoire pour aller sur d'autres territoires et aujourd'hui pour aller jusque dans une autre province.
Merci. Professeur Kavissa, il y a pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Kinshasa.
Je suis Emmanuel Moulamba depuis Kinshasa. Je pense que si cette milice continue à faire les actes de pillage et tuerie, c'est aussi suite au laisser-aller du gouvernement de la RDC, puisqu'il n'y a jamais eu de sanctions exemplaires envers les auteurs de ces actes. Le cas de Gédéon Kyungu, qui a été condamné à la peine capitale, et après sa fuite, aujourd'hui il est accueilli comme un héros, alors qu'il a commis des crimes de guerre dans notre pays.
Professeur Kavissa.
Bon, ben je voudrais vous dire... sans savoir qu'on va me poser la question, je crois que j'ai déjà répondu à cette question, en vous disant que l'État a été créé par l'homme. Et l'homme l'a créé par peur de s'auto-exterminer.
Exterminer.
Et que aujourd'hui, si nous ne punissons pas, eh bien, nous revenons à l'État nature. Et que les gens ne croient plus à l'autorité à qui ils ont remis l'être. Ce qu'on appelle les Léviathans, et ils vont se rendre de justice les uns les autres. Ça, c'est un. Le deux, il y a l'effet des contagions qu'a parlé le gouverneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis contre l'État pour les impôts. Toi, tu es contre l'État parce que l'eau ne vient pas. L'autre est contre l'État parce qu'il est chômeur. L'autre est... Lorsque nous nous rencontrons sans avoir le but unique, nous avons la victime unique, c'est l'État. La troisième chose, vous connaissez que notre pays ici a vécu toujours sous les régimes autoritaires. Ça veut dire qu'il y a l'État d'un côté et les citoyens de l'autre. Alors chaque fois qu'ils se fâchent contre l'État, ils vont détruire les biens publics. Ils ignorent que ce sont leurs biens parce que ces biens sont construits parfois même sans les consulter. Moi, je fais un travail que j'ai démontré, que j'expliquais l'origine du pillage des 92, 92, je ne sais pas moi, quand vous étiez ici au Congo.
Des
moi,
années 90.
Voilà. 92, 94. Voilà. Et je montrais pourquoi les gens s'attaquent au bien de l'État. Parce que eux, ils croient que ces biens représentent la personne qui les malmène, qui s'appelle l'État.
Et donc, c'est ainsi que vous justifiez, professeur, que nous sommes passés des revendications traditionnelles aux revendications politiques.
Je ne justifie pas. Je déteste les gens qui vont détruire les biens de l'État. Je déteste les gens qui vont faire des revendications par la violence. Mais comme criminologue, j'explique que ces revendications... Lorsque on ne les met pas en place et résoudre les problèmes, il y a d'abord le phénomène qu'on appelle de l'autodisculpation. On a parlé de Gédéon. Bon, on voit un monsieur, un assassin, qui revient, qui est reçu comme Jésus. Mais c'est un scandale terrible du point de vue de la jeunesse, non jeunesse. Et alors, au même moment, les autres personnes pensent que les mal qu'ils ont fait sont minimes par rapport au mal qu'a fait ce monsieur. Et donc, lorsque vous l'arrêtez, il a l'impression que son arrestation est injuste. Vous voyez? Donc, l'État doit être le même pour tout le monde, en tout le temps.
Alors, professeur, ne faudrait-il pas s'inquiéter de l'expansion de cette milice qui risque de faire boule de neige?
Mais bien sûr! Je parlais de l'effet des contagions et je parlais de la légèreté. C'est pas avec les armes que vous allez résoudre ces problèmes.
Ça passe par quoi la solution,
professeur? Ce type de problème passe d'abord par les identifier. Identifier le problème. Et voir, identifier non seulement les auteurs, mais les lieux de ces problèmes. Le mettre ensemble. Ne croyez pas que ça se passe seulement au Kasaï. Ça se passe peut-être ailleurs. Nous n'avons pas
de manière latente
les informations. Eh bien, il faut résoudre ces problèmes d'une façon purement intellectuelle. Et pas en prenant les armes, en faisant, nous n'allons nulle part. La violence appelle la violence.
Professeur Ya Crispin, qui nous écrit de Dungu, qui dit, nos compatriotes autorités coutumières qui réclamaient la création d'un ministère spécial des affaires coutumières n'avaient-ils pas raison? Parce qu'il serait incontestablement difficile que l'on puisse gérer et régler à fond tous les problèmes coutumiers sur base des revendications administratives et politiques générales sous tutelle du ministère de l'Intérieur.
Je vais vous donner mon avis personnel. En 2006, lorsqu'on faisait les référendums, j'étais contre la Constitution. Je suis venu même sur votre antenne ici. Et j'ai toujours été contre.
Pourquoi?
Parce que je n'entre pas dans les profondeurs.
Dans les détails, oui.
Parce qu'il y a des articles extrêmement dangereux.
Tels que?
Tels que cet article qui démocratise, paraît-il, les pouvoirs coutumiers. Eh bien... aujourd'hui, vous avez le problème là, dans un petit coin. Demain, lorsque les élections locales vont venir, vous aurez ce type de problème pratiquement dans chaque secteur.
Et donc, professeur, en guise de conclusion, déjà, que faudrait-il faire pour prévenir ce genre de situation?
Eh bien, il faut qu'on... je reviens sur ce que les Congolais aiment, les trois couleurs du Congo, dialogue, institution... Nouvelle guerre, nouveau dialogue, c'est toujours ça. Non, non. Moi, je pense que nous devons, à un moment donné, demander aux spécialistes d'étudier notre pays, d'étudier les structures de notre pays, d'étudier leur fonctionnement, de faire l'inventaire, les statistiques.
Et de proposer des solutions adaptées.
Et de proposer des solutions adaptées à qui de droit. Parce que nous marchons, et excusez-moi, là c'est important.
Et c'est par là que vous terminez.
Nous faisons des choses comme des gamins. Chaque fois quand nous voyons un événement, nous avons l'impression que ça ne s'est jamais produit ailleurs. Et c'est ça le grand problème.
Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoï-Kassangi, pour vous, que faudrait-il faire pour prévenir ce genre de situation?
Écoutez, notre population, c'est... toutes les procédures, s'il faut revendiquer le pouvoir, s'il faut chercher des arrêtés, etc., il faut faire des recours. Et nous avons le ministre d'État en charge des affaires coutumières qui répond à toutes lettres de recours. Et nous avons nous-mêmes, ici, nous recevons des lettres du ministre d'État, s'il faut faire des revendications coutumières. Et la procédure est connue. Mais quand on en arrive à prendre des armes et à déstabiliser les institutions, au moment où les autorités des territoires fouillent, et on s'en prend à eux, on tue. Bon, la réponse, c'est d'abord rétablir la situation. Et on répond. Il y a les services de l'ordre qui doivent répondre. Et pour nous, nous pensons que le dialogue reste le mode par excellence des gestions. C'est tous les problèmes. Et nous sommes ouverts au dialogue.
Monsieur le gouverneur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Un bref message en Tshiluba pour toutes les populations du Kasaï oriental qui vous suivent en ce moment, pour les apaiser.
Ndingambila bana bosu ba mwana Kasaï. Kasaï idi abun. Tudi bantu ba mwa. Mvita bana batiketa ba heshe bingoma. Bwani ndai. Nukuhu lebike sebi jashila. Echi chidi chinyao. Kutu mabana kupambilene. Ndai. Kano ati chingoma kache mkino ata. Ndai ne nukasa ane bingoma.
Merci, monsieur le gouverneur. C'est pour apaiser la tension. Joseph Kasunga, Bukart Kasunga Chilunde, conclusion en un mot.
En un mot, c'est... il faut le dialogue. Et ensuite, il faut identifier les notabilités de ce secteur-là pour qu'ils rentrent, échanger avec les chefs coutumiers qui sont restés, et même les villageois qui sont restés, pour arrêter ça. Parce que ça fait boule de neige. Et si on ne va pas au fond du problème,
ça risque de se répéter.
Voilà.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Oh là là. Voilà. Bonne suite de programme sur la radio de la C. Merci de votre attention. Au revoir.